Ici, la Velle Amérique.
Jacques Aristide dans la capitale américaine, très content de m'installer à vos côtés pour un nouveau numéro de Washington Forum, dominé cette semaine par le report très critiqué des élections au Nigeria.
Abuja a invoqué l'impossibilité d'assurer la sécurité du vote en raison de Boko Haram, mais s'est donné quelques semaines pour annihiler le groupe islamiste. L'opposition y voit une manœuvre du parti au pouvoir. Des observateurs craignent une éventuelle crise électorale dans un pays déjà confronté à une guerre. Décryptage.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum que vous propose la VOA. Dans quelques minutes, nos invités nous livreront leurs analyses et commentaires sur la polémique qui entoure ce report au Nigeria. Au lieu du 14 février, les 68,8 millions d'électeurs sont maintenant appelés aux urnes le 28 mars prochain. Le temps, d'après le pouvoir, d'en finir avec Boko Haram, qui n'a toutefois pas tardé à défier la force régionale africaine qui veut le combattre. Dans le Nord, l'insécurité est croissante. Le correspondant de la VOA, Chris Einstein, s'est rendu dans quelques-unes des villes en proie aux ravages de Boko Haram. À Hong notamment, il a vu les craintes des électeurs. Son reportage est présenté par Lionel Gaïma.
C'est en novembre dernier que les islamistes de Boko Haram ont pris d'assaut Hong, ville située dans l'état d'Adamawa. Ils ont pratiquement tout détruit sur leur passage, tout ce qu'ils considèrent mauvais, dont le stock de bière du boutiquier Dim Hua. Hong est maintenant presque une ville fantôme, beaucoup d'habitants ont fui. Ils se demandent s'ils pourront retourner chez eux pour voter en toute sécurité.
Ils font peur aux gens. Beaucoup de gens sont partis, comme mon propriétaire. Son mari est mort, les enfants sont à Yola. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, s'ils leur permettront de voter ici. En tout cas, je ne vois pas ceux qui ont fui revenir pour voter.
Adamawa et les États voisins de Borno et Yobe ont tous été durement touchés par la violence de Boko Haram depuis 2009. Environ 1 million de personnes ont fui leur maison rien que l'an dernier. Le groupe armé veut une application stricte de la charia, la loi islamique, dans tout le nord-est du Nigeria. Certains habitants ont fui vers le Cameroun, le Niger et le Tchad. D'autres ont trouvé refuge dans des camps de déplacés internes, comme celui de l'autre côté du fleuve de Yola, la capitale de l'état d'Adamawa. Ici, environ 6400 personnes dorment dans des tentes ou des lits superposés dans un dortoir. Peu de gens ont la carte d'électeur nécessaire pour accomplir leurs devoirs civiques, selon le président de l'association des personnes déplacées, Alhaji Modu Ghana.
À propos du vote, nous ne savons pas ce que le gouvernement peut faire pour nous, les personnes déplacées. Devrions-nous retourner dans nos localités? Le gouvernement va-t-il prendre des mesures différentes pour nous permettre de voter? Vous savez, personne n'est arrivé ici dans ce camp avec des documents ou des cartes d'électeur parce que vous pensez d'avoir votre vie. Vous n'avez pas le temps de penser à quoi que ce soit d'autre, même cette carte d'identité nationale. Personne ne marche avec. Nous l'avons tous laissé chez nous.
L'ancien dirigeant militaire Muhammadu Buhari, le candidat de l'opposition à la présidentielle face à Goodluck Jonathan, est populaire dans une grande partie du Nord. Même si beaucoup de Nigériens reconnaissent que le président sortant a fait du pays la plus grande économie d'Afrique, de nombreux partisans de M. Buhari critiquent M. Jonathan pour n'avoir pas pu mettre un terme au combat dans le Nord-Est. Ousmane Omar est un employé du gouvernement. Sa ville était l'une des celles occupées par les insurgés.
À cause de Boko Haram, à cause de la corruption, Goodluck n'est pas un leader. Des gens sont en train d'être tués dans l'Adamawa. Goodluck n'y est jamais venir pour la campagne électorale.
La commission électorale du Nigeria a mis en place des mesures pour distribuer des cartes d'électeurs aux personnes déplacées. Mais d'aucuns se demandent si le plan portera des fruits. Une chose est sûre pour les observateurs, si le Nigeria ne parvient pas à reprendre les parties du Nord, toujours contrôlées par Boko Haram, les élections ne pourront pas se tenir dans ces régions.
Merci Lionel. Et maintenant, l'heure d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités. Avec moi sur ce plateau, le docteur Christophe Fomunio, directeur régional pour l'Afrique au National Democratic Institute, le NDI basé à Washington. à Paris. Samuel Gembok, chercheur à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Il s'intéresse notamment aux enjeux sécuritaires et de défense en Afrique. Et à Abuja, l'envoyé spécial de la VOA au Nigeria, Anne Luk, qui nous rejoint par téléphone. Le chef de l'État nigérian a paru à la télé mercredi soir pour répondre aux questions sur la crise sécuritaire ayant entraîné le report de la présidentielle. Je vous propose de l'écouter.
Je n'ai pas été consulté et je ne veux pas être consulté. En 2011, la CENI ne m'avait pas consulté. Si les responsables m'en avaient informé, je n'aurais pas eu à perdre mon temps.
Anne, comment ont réagi les Nigérians à cette intervention télévisée de Goodluck Jonathan?
Oui, le président, il a tenté de rassurer le pays, rassurer des gens. Mais moi, je trouve que les gens, ils restent très sceptiques ici. Ils sont très sceptiques. Ils demandent pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire dans 6 semaines qu'on n'a pas déjà fait.
Alors oui, report justifié par la situation d'insécurité, notamment dans des États tels qu'Adamawa, Borno et Yobe. D'ailleurs, ce jeudi même, des médias rapportent qu'au moins 7 personnes ont été tuées lorsqu'une femme s'est fait exploser dans un marché à Borno. Voilà, problème d'insécurité, mais les détracteurs de Goodluck Jonathan jugent que sa popularité chancelante est la vraie raison du report. Chris Fomunio, subterfuge politique ou réelle crainte pour la sécurité des électeurs?
Je crois que les critiques, ça peut se comprendre dans un contexte où c'est arrivé, le report est arrivé très tardivement, au moment où la commission électorale se disait très prête à organiser ces élections. Et au moment où des milliers de Nigériens s'apprêtaient à aller voter, surtout dans un contexte et dans un pays où, par le passé, les forces armées ont eu à intervenir dans le jeu politique. Ouais. Et comme le président de la commission électorale a fait allusion à l'incapacité des services de sécurité à assurer la sécurité des électeurs et des agents électoraux, cela a fait penser aux gens que peut-être que les services de sécurité étaient en train de s'immiscer dans le jeu politique, ce qui n'est pas vraiment, ce qui n'est pas un bon argument pour un pays comme le Nigeria qui se prépare à des élections très compétitives.
Mais cette commission électorale elle-même est-elle justement indépendante?
Oui, je crois que le président de la commission électorale, le professeur Djega, est une personnalité très connue pour son indépendance. Je crois que pendant les 4 dernières années, il a pu redorer un peu le blason de cette commission électorale. Et justement, si au jour d'aujourd'hui, même le parti majoritaire ne lui fait pas confiance, c'est justement parce qu'il a pris ses distances et il cherche à être vraiment neutre et impartial.
Voilà, on l'a dit, le pays s'est donné quelques petites semaines pour éliminer Boko Haram et tenir les élections le 28 mars. Samuel Gembok, quelle crédibilité accordez-vous à cet objectif hyper ambitieux, même avec l'aide de la force régionale africaine?
Je pense que c'est une ambition qui mérite d'être remise en question, compte tenu de la complexité de la situation sécuritaire dans le pays. On ne peut pas résoudre en 6 semaines la question de la stabilisation de la partie nord-est du pays, alors qu'on a été incapable de le faire pendant 6 ans. Ça fait 6 ans que le Nigeria lutte contre Boko Haram, et l'armée et les forces de sécurité n'ont pas pu arriver à bout, n'ont pas pu mettre justement Boko Haram hors d'état de nuire. Mmh. Ce qui rend donc toute analyse sceptique quant à la capacité des dispositifs de sécurité nationaux de résorber la menace Boko Haram en l'espace de 6 semaines.
Voilà, en d'autres mots, vous voulez dire...
relever quand même qu'il y a...
Je m'excuse. Allez-y.
Comment ?
Allez-y. Je m'excuse. Allez-y.
Donc, je pense qu'il faut remettre cette ambition en question. La question sécuritaire est très complexe, même si on a observé depuis quelques jours et quelques semaines l'entrée en guerre des pays voisins, notamment le Tchad et le Niger, le Cameroun qui est toujours en guerre contre Boko Haram. Cela ne permet pas d'avoir une visibilité sur le très court terme. Donc, pour ma part, je reste très sceptique quant à la capacité de l'armée nigériane et même la coalition régional à résoudre le problème Boko Haram en moins de 6 semaines.
D'accord. Donc, en d'autres mots, vous voulez dire que cette date du 28 mars n'est pas réaliste, que le vote n'aura pas lieu vraiment dans ces États comme là où Boko Haram est présent, hein, que Boko Haram contrôle. Alors, donc vous pensez que ça ne va pas pouvoir se faire. Alors, il faut dire également que le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que les États-Unis étaient profondément déçus par ce changement du calendrier électoral. Mais maintenant, que dit la Constitution ? Le Nigeria est quelque part obligé à organiser ses élections.
Absolument. Le Nigeria est obligé d'organiser les élections. Si je mets quelques réserves quant à la capacité de l'armée à résoudre le problème de Boko Haram, je ne dis pas que l'élection ne pourra pas avoir lieu. Simplement, il y aura une partie de l'électorat du Nord qui ne pourra pas s'exprimer, malheureusement. Mais en tout état de cause, l'élection peut bien avoir lieu le 28 mars prochain. L'élection aurait pu avoir lieu le 14 février, mais compte tenu des requêtes qui ont été formulées par les autorités de la sécurité nationale, je pense que la commission électorale nationale indépendante, qui n'a pas su mettre en place des mécanismes de prévention, d'intégration du risque de crise dans la programmation de son processus électoral, même si la Constitution l'invoque, mais on peut trouver des circonstances atténuantes face à des situations de sécurité très complexes. Mais les élections, quand même, peuvent toutefois avoir lieu le 28 mars, si, bien évidemment, l'armée arrive à sécuriser au moins le personnel électoral, les électeurs et aussi le matériel électoral. Parce qu'il faut bien se dire que il y a une chose d'organiser les élections le 28 mars prochain. Il y a une autre chose, celle de la validation des résultats. Est-ce que les candidats de l'opposition ou du parti au pouvoir ne vont pas contester le verdict des élections si jamais une partie de l'électorat n'arrive pas à s'exprimer? Est-ce qu'on ne va pas, aboutir à des crises post-électorales violentes? Donc il y a là des questions qui se posent. Il y a vraiment matière à réflexion en ce moment, à partir du moment où la situation sécuritaire n'est pas suffisamment stabilisée.
Et d'ailleurs, c'est la question que nous posons.
On se pose la question de savoir si ce
sera... Et d'ailleurs, c'est la question
que nous posons.
Électorale qui se profile à l'horizon. Et d'ailleurs, bon, il faut dire que Abuja a assuré qu'il n'y aura pas de nouveau report. Mais maintenant, que faut-il attendre de cette force régionale africaine, Chris Fumuniu?
Oui, je pense que les élections auront lieu le 28 mars. Ça, c'est une évidence. La Commission travaille dans ce sens. Tout le monde travaille dans ce sens. Et je crois que ceux qui ont provoqué ou ont suscité ce report n'auront plus les mêmes arguments dans 6 semaines. Quant aux dispositions qui sont en cours, il faut aussi se rendre à l'évidence que depuis samedi, depuis le report, on entend beaucoup parler des interventions de l'armée tchadienne, de l'armée nigérienne, même de l'armée camerounaise, mais on n'a rien dit jusqu'à présent des contingents nigériens. Donc nous attendons à ce que, effectivement, si les services de sécurité du Nigeria ont dit publiquement qu'il leur fallait du temps pour lutter contre Boko Haram, nous attendons encore les voix à l'œuvre. Ouais. Sinon, c'est le dispositif sur-régional qui est à l'œuvre et on voit effectivement quelques résultats positifs dans ce sens.
Voilà, donc nous attendons les résultats. Mais au-delà, Samuel Gembok, très rapidement, cette riposte régionale signifie-t-elle au moins que le temps de l'indifférence des pays voisins du Nigeria face au danger Boko Haram est révolu?
Ce qu'il faut quand même relever par rapport à ce que le collègue disait tout à l'heure, c'est que le Niger s'est prononcé, le Parlement nigérien s'est prononcé en faveur du déploiement d'un contingent pour lutter contre Boko Haram, la réorganisation du dispositif militaire, notamment au niveau des frontières avec le Nigeria, a déjà été opérée. Mais simplement, ce qui pose problème, c'est l'opérationnalisation de cette force multinationale. Il y a déjà des résultats qu'on peut constater sur le terrain, notamment l'entrée en guerre du Tchad, qui permet aujourd'hui de repousser Boko Haram. Mais on sous-estime énormément la capacité de nuisance militaire de Boko Haram. Boko Haram, malgré cette coalition, ouvre de nouveaux fronts, et pour ceci pour accroître sa mobilité. Donc on ne sait pas quel moment cette capacité de nuisance sera réduite par le dispositif régional qui traîne encore, parce que le processus reste quand même très long. Il faut que le concept d'opération soit validé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ensuite, il faut que ce concept soit validé par le Conseil de sécurité des Nations unies. Il faut des besoins, il y a des besoins en termes de financement de la force que les États de la région n'ont pas. Ouais. Il faut des équipements adéquats, il faut de la logistique, il faut mobiliser toutes ces choses-là. Cela ne peut pas se faire en moins de 6 semaines.
L'Union africaine qui attend l'aide de la communauté internationale, et, évidemment. Alors le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, près de 174 millions d'habitants, environ 68,8 millions d'électeurs éligibles, je vous le disais. Des failles dans la distribution des cartes d'électeurs ont été relevées. Au 1er février, plus de 42 millions de cartes ont été distribuées. Anne, très brièvement, que fait la commission électorale pour les millions d'autres cartes encore à répartir, sans oublier les 1,5 million de déplacés internes?
Oui, pour les déplacés, ce que la commission propose, c'est qu'ils peuvent voter dans les capitales des États où ils résident. Mais le problème, c'est que la plupart ont quitté le nord-est du pays, ils sont partis au Niger, au Cameroun, soit ça, soit ils sont partis au sud. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ce n'est pas une solution parfaite. Pour les autres électeurs, moi-même, sur le terrain, j'ai vu la confusion, la désorganisation, la frustration qui existait pour les électeurs qui cherchaient à avoir des cartes. Alors, tout ce que la commission me dit, c'est qu'ils encouragent des gens à sortir, à aller chercher des cartes. Mais en pratique, c'est plus compliqué que ça.
Voilà, nous allons retrouver nos invités dans quelques petits instants. À venir également les commentaires Facebook. Rendez-vous après une courte pause. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.
Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle.
Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes.
De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales.
Washington Forum.
Washington Forum.
Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Nous braquons les projecteurs sur le report des élections au Nigeria. Nos invités à Paris, Samuel Gembok, chercheur à l'IRIS, dans la capitale américaine, docteur Chris Fomugno du NDI, et en direct d'Abuja, ma collègue de la VOA, Anne Louk. D'emblée, la parole aux Facebookers, Issa Gamsongré, Ouagadougou, Burkina Faso. Pour mettre un terme à la crise, il faut faire partir le président. Good luck, Jonathan. Voilà quelqu'un de très catégorique. Hormis Boko Haram, en fait, il y a un autre commentaire. Donc, Sam Bahiziré de Kampala, Ouganda. Avec la décision du Niger d'intervenir au Nigeria, on ne sait pas quelle suite sera donnée aux élections. Hormis Boko Haram, qui a tué environ 13 000 personnes en 6 ans d'insurrection, le Nigeria est également confronté à la chute des cours du pétrole. 70% des recettes de l'État proviennent du brut, alors que le pays est toujours gangrené par la corruption. Chris Fomugno, économie, corruption, partage équitable des richesses, sont-ils les autres enjeux de ces élections?
Effectivement, c'est tout un ensemble. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans les derniers sondages qui ont été publiés par Gallup au mois de janvier, effectivement, on a vu que l'administration Jonathan prenait un coup parce que beaucoup de Nigérians estiment que dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la lutte contre le chômage pour les jeunes et tout ça, il n'a pas été à la hauteur. J'aimerais revenir un peu rapidement sur la question sécuritaire, parce que effectivement, au jour d'aujourd'hui, on voit le dispositif sur-régional fonctionner, mais il ne faut pas oublier que pendant longtemps, le Nigeria a été très réticent d'autoriser les troupes étrangères des autres pays africains à venir se battre sur son territoire. Donc ce n'est que tout récemment, dans les dernières semaines, que le Nigeria a donné ce feu vert, et c'est pour cela que le Tchad, les troupes tchadiennes, les troupes nigériennes et même les troupes camerounaises aujourd'hui se battent sur le territoire nigérien, ce qui favorise un peu les résultats positifs qu'on a pu obtenir jusqu'à présent. Donc je crois que c'est tout un ensemble, économie, politique, la transparence, la gestion des trésors publics, qui aujourd'hui fait l'objet de cette contestation politique entre Jonathan et Mouamadou Bouhari.
C'est un aspect qu'on avait abordé dans un des derniers numéros du Washington Forum. Alors pour revenir à l'économie, le Nigeria, troisième producteur mondial de pétrole, Samuel Agyembok, la fragilité du Nigeria fait-elle peur? Pourquoi la stabilité de ce pays est-elle si importante en fait pour l'Afrique, mais peut-être aussi pour le monde?
La stabilité du Nigeria est importante pour l'Afrique et pour le monde de par son rôle et son statut au niveau de la sous-région, mais aussi au niveau continental. C'est la première économie du continent, c'est l'une des principales populations du continent, c'est également une des économies qui est les plus dynamiques du continent, malgré ces soubresauts sécuritaires qui ébranlent les perspectives économiques. Mais il faut quand même relever que sur le plan économique, le bilan de Goodluck Jonathan n'est pas si noir que l'on peut le dire. Il a bénéficié certes d'une configuration macroéconomique qui lui était relativement favorable quand il prend le pouvoir. Et donc il a su relancer aussi la diversification de l'économie. Le secteur pétrolier qui occupe 70% de l'économie nationale n'a pas été le seul parce qu'il a quand même relancé malgré ces prix du baril du pétrole qui chute sur le marché international. Le Nigeria a évité le pire parce que il y a les secteurs non pétroliers qui ont pu soutenir cette croissance, notamment l'agriculture, les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication et les services. Donc il a pu quand même relancer cette diversification de l'économie que ses prédécesseurs ont mis en place. Donc sur ce plan, il bénéficie quand même d'une certaine notoriété et je pense que un de ses leviers de campagne, ce sont ses réussites économiques, c'est le fait d'avoir porté le Nigeria au devant de la scène économique continentale et d'avoir accru d'avoir permis au Nigeria d'accroître sa visibilité sur le plan international. Donc, l'élection sera forcément, n'est pas encore jouée d'avance parce que sur le terrain de la corruption, il est attendu. Les institutions publiques nigérianes restent gangrénées par ce phénomène de corruption. Il a été incapable ou il n'a pas su intégrer une part importante du secteur informel dans l'économie formelle. Et donc, sur ce plan, il n'a pas su améliorer significativement le revenu des Nigérians.
Alors, après 2011, les candidats Jonathan et Bouhari vont donc de nouveau croiser le fer. Des observateurs s'accordent à dire que la religion a toujours joué un rôle prépondérant dans la politique nigériane et que Goodluck Jonathan a rompu le pacte non écrit qui veut une alternance du pouvoir entre chrétiens et musulmans à la tête de l'État. Chris Fumunyo, le non-respect de cette règle tacite peut-il menacer la fédération nigériane?
Non, je ne le crois pas, parce que c'était une règle non écrite, mais une règle interne à l'un des partis politiques.
Du parti au pouvoir.
Du parti au pouvoir. Donc, ça ne peut pas être une question de débat national. Ouais. Il est aussi intéressant de voir que les deux tickets ont essayé d'équilibrer les candidatures. Par exemple, le vice-président de Goodluck Jonathan est un nordiste musulman et le vice-président de Bouhari est un soudiste chrétien. Donc, quelque part, dans l'échiquier politique nigérian, chacun essaie d'équilibrer un peu pour ne pas trop basculer l'esprit de l'équilibre de l'unité nationale. Je pense que si les élections du 28 mars se déroulent dans les bonnes conditions et que les Nigériens sentent que leurs voix ont été entendues et que la commission électorale a fait son travail et que le gagnant, le vainqueur, est vraiment celui qui a eu le plus de voix, je crois que toute cette question de fragilité de la fédération nigériane vont être réglées.
Mais à écouter Samuel Agyembok tout à l'heure, nous ne voulons pas être pessimistes, évidemment, mais pensez-vous que quelque part les ingrédients sont réunis malheureusement pour amener le pays vers une crise électorale?
Non, je pense que nous avons suffisamment de temps pour aider, accompagner les Nigériens à éviter cette crise. Et je peux vous assurer, parce que j'étais au Nigeria au mois de janvier, on avait déjà des collègues sur le terrain pour les élections du 14 février, et nous avons l'intention d'envoyer une délégation d'observateurs internationaux. Nous avons cette conviction que sur la place au Nigeria, il y a des milliers de Nigériens qui œuvrent pour que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles. Les organisations de la société civile, même les organisations religieuses, les confessions, les musulmans comme les chrétiens. Donc, il y a beaucoup de Nigériens qui œuvrent à ce que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles. Et je crois qu'ils auront encore le dessus arrivé au mois de mars.
Mais quand même, quand on parle des élections de 2011, alors on dit que c'était des élections plus ou moins honnêtes, mais il y a eu des morts quand même. Parlé de 800 morts, si ma mémoire est bonne, à l'époque. Donc maintenant, on a l'impression qu'il y a des problèmes qui sont là peut-être pires qu'en 2011.
Oui, il y a eu 800 morts après les élections de 2011, après que les résultats des élections ont été annoncés. Donc, quand même une poignée de gens qui contestaient un peu l'issue du scrutin. Au jour d'aujourd'hui, si les conditions de transparence sont réunies, et je crois savoir que la commission électorale a mis en place, avec la nouvelle technologie, quelques mesures pour freiner un peu les fraudes que le Nigeria a connues par le passé, effectivement, il n'y aura pas de contestation de ces résultats.
Voilà, attendons voir. Alors, durant cette campagne électorale prolongée, les candidats promettent la création de millions d'emplois, la réduction des sempiternelles coupures d'électricité et l'amélioration de l'accès à l'eau courante. D'ailleurs, pour parler de l'électricité, il y a une coupure justement ce soir. On voulait être en direct avec vous via Skype, mais malheureusement, à cause de ce problème d'électricité, ça n'a pas pu se faire. Alors, ce sont les problèmes de la vie de tous les jours. Quand vous parlez aux gens à Abuja, font-ils part de tels problèmes? Ces problèmes font-ils partie de leurs attentes du prochain gouvernement, du prochain président?
Oui, ils parlent de ces problèmes, mais en fait, moi, je trouve que beaucoup de monde parle de la corruption. Pour eux, tout ça tourne autour de la corruption, la malgérance de l'économie, la malgérance du secteur électricité, les coupeurs d'électricité, tout ça tourne autour de la corruption. Alors si on peut régler la corruption, eux, ils envisagent une meilleure vie.
Oui. D'accord. Samuel, très rapidement, deux mots pour terminer. On a entendu Chris dire qu'on peut en fait éviter toute crise électorale. Vous pensez que ça peut se faire et que faut-il faire en fait, très rapidement?
Il faut assurer la transparence des élections. Il faut que les institutions qui assurent la conduite, qui organisent et qui supervisent les élections puissent exprimer leur talent dans la neutralité. Il faut que cela soit unanimement accepté par le parti au pouvoir et par l'opposition. Il faut une présence régulière de l'opposition du début jusqu'à la fin du processus électoral sur toute l'étendue du territoire. Je pense que c'est le seul gage pour que le Nigeria ne puisse pas sombrer dans une crise post-électorale violente.
Voilà. Voilà, merci à nos invités, Anne-Luc de la VOA, le chercheur Samuel Gembok de l'IRIS et Dr Chris Fomugno du NDI. Avant de terminer, un petit clin d'œil à la Côte d'Ivoire qui a décroché non sans peine sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2015, l'incontournable tournoi de football sur le continent africain. Les éléphants qui ont battu dimanche le Ghana au tir au but à Bata en Guinée équatoriale. Bravo donc à la Côte d'Ivoire. Une fois encore cette semaine, c'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.